Donc, nous allons commencer la troisième partie, le temps de la croissance. Voilà le plan. Je ne sais pas jusqu'à quelle étape nous pourrons avancer vu la limite du temps, mais au moins voilà le parcours que nous allons faire. Je vais rappeler le plan au fur et à mesure de mon texte, donc c'est pas grave si vous ne prenez pas tout de suite. D'abord une citation de François Cheng. Vie, temps, mort est un tout indissociable. On ne peut échapper à ces trois entités concomitantes et complices qui déterminent tout phénomène vivant. Car si le temps nous paraît un terrible dévorateur de vie, il en est en même temps le grand fournisseur. Donc c'est cet aspect de la générosité du temps, la bonté du temps, que nous allons maintenant essayer d'apprécier et de goûter. La supériorité du temps sur l'espace étant explorée ou au moins envisagée, il est bon de considérer le processus de maturation d'une personne. Et nous allons commencer avec une devinette. Le sphinx posa à Œdipe l'énigme suivante. Quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi, à trois le soir et qui est le plus faible quand elle se tient sur quatre pattes? Oui, voilà. Petite silhouette sur trois pattes, sur quatre pattes, sur deux pattes et avec la canne, c'est trois pattes. Représenter les âges de la vie, c'est fait depuis très longtemps. Alors voilà un exemple d'un tableau du 19e siècle de Friedrich où vous voyez cinq personnages. Le premier de dos, c'est l'homme âgé. Le deuxième qui nous fait face avec un chapeau haute forme, c'est l'homme mûr. Il est accompagné de sa femme qui est assise et de leurs deux enfants. Ça, c'est le premier plan humain. Et dans l'arrière-plan, vous avez ce paysage maritime avec cinq bateaux. Plusieurs interprétations sont possibles. En voilà une. Le bateau central, c'est le symbole de la mer, accompagné de deux petits bateaux qui sont les plus proches de la rive parce qu'ils commencent leur voyage. La mer, le bateau symbolisant la mer est déjà un peu avancé et les deux bateaux au fond, le plus proche de nous, mais déjà couleur pastel, c'est l'homme mûr et le plus avancé à l'horizon, ce serait l'homme âgé. Une façon symbolique d'exprimer l'existence humaine. L'Antiquité, le Moyen-Âge, ont souvent décrit les étapes de la vie humaine avec sept étapes. Ici, vous en avez 11. Vous avez d'abord l'enfant dans son berceau, après l'enfant de 10 ans, les jeunes de 20 ans qui se marient, ceux de 30 ans qui ont des enfants, celui de 40 ans, on dit c'est la maturité, et puis le sommet, c'est l'âge stationnaire, s'il vous plaît. Et commence ensuite le déclin. Et vous terminez au bas de l'escalier, vous avez un vieux monsieur assis sur sa chaise, et c'est marqué que Dieu ait pitié de moi. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous de l'image de la croissance humaine? Quelle image la société nous propose-t-elle sur cette croissance de la personne? Un bon moyen de le savoir, c'est de regarder les publicités. Dans une société où l'on tâche de cacher son âge, où le prototype de l'humanité n'est absolument pas le vieillard, l'âge idéal présenté est la jeunesse et même l'adolescent, ou plutôt un consommateur informe, comme le qualifie Adjage. Vous avez le texte à la page 5. Je vous propose de parcourir ces lignes. Certains analystes dénoncent ainsi le jeunisme de nos jours. Et il va expliquer ce qu'il entend par ce terme. Il convient cependant de remarquer que ce jeunisme ou cet adolescentisme sont en vérité la négation de l'adolescence et de la jeunesse. Chaque âge suit le précédent et appelle le suivant. Ça, c'est la règle générale. Les générations se suivent, les âges de la vie se suivent. Mais aujourd'hui, voilà la situation. Une adolescence qui ne tend pas vers l'âge adulte, une jeunesse qui perd son centre de gravité, ne sont plus jeunesse ni adolescence, mais autre chose qui n'a pas de nom. Parce qu'on sombre alors dans la confusion la plus complète. La petite fille s'habille en pin-up, la vieille fait la Lolita, le jeune garçon devient PDG d'une start-up informatique qui donne le ton en bourse. Autrement dit, c'est l'effacement des générations. Il y a un brouillage parce qu'on n'accepte pas une succession, on s'est arrêté sur un âge. Et le philosophe maintenant analyse. Tel est l'individu de la théorie technologico-marchande sans âge. Sa sortie de la diversité des âges de la vie implique la perte de la diversité des fonctions sociales. Alors, qu'est-ce qu'il entend par cela? Il va l'expliquer dans les lignes qui suivent. Donc, ces diversités des fonctions sociales qui se réduisent dorénavant à une seule, la consommation. Jeunes et vieux se réjouissent ensemble dans l'accès commun aux marchandises. Ce n'est pas en eux, mais dans les produits qu'ils achètent, que se repèrent encore des âges résiduels. Un exemple, vous allez au Japon, vous entrez dans une librairie et vous avez des rayonnages entiers de mangas. Tout le monde lit des mangas. Mais vous avez un rayon pour les petites filles, pour les ados, pour ceux qui commencent à travailler, pour les hommes d'entreprise. Donc, c'est en voyant les différentes variétés de mangas que vous repérez les âges. Le commun, c'est que tout le monde achète des mangas et dévore des mangas. Mais ce qui les motive, dans tous ces consommateurs, est la même impulsion. Ils ont le même rapport au monde, qui n'est plus un monde, mais un club de consommateurs. Et la conséquence, la voilà. Voilà pourquoi la figure de l'adolescent finit par l'emporter sur toutes les autres. L'adolescent est en position de consommateur idéal. Il n'est pas encore entré dans la laborieuse insignifiance du salarié. Il est encore assez informe pour s'ouvrir à toutes les innovations. Autrement dit, c'est une proie facile. Certes, il lui manque le salaire, mais à cette adolescence infinie, qu'on ne peut pas ne pas mettre en corrélation avec l'idée de croissance illimitée, s'associe naturellement l'esprit de rente. C'est le secret de Polichinelle du transhumanisme et de son soi-disant surhomme. Être un adolescent rentier perpétuel, où tout n'est que dernier jeu vidéo. Autrement dit, la consommation nivelle tous les âges et fige les personnes dans une adolescence indéfinie, où il ne s'agit plus de croissance, mais d'une course à la nouveauté que l'on peut acheter. Mais ce modèle proposé par la société appauvrit grandement notre appréciation de la croissance humaine. Celle-ci semble ne tourner autour que d'une seule génération, laissant de côté les autres étapes de la vie. Et une conséquence immédiate de ce jeunisme ambiant, c'est que le début et la fin de la vie sont malmenés. Aujourd'hui, les bien portants vouent un culte à la performance, nous l'avons vu, à l'efficacité, à ce qui est utile, à ce que l'on peut contrôler, dans le but de soumettre le réel à la volonté de l'homme. C'était le projet de Descartes. Je le cite, « devenir comme maître et possesseur de la nature ». Nous vivons dans un monde où l'on vénère plus que tout les valeurs suprêmes de l'autonomie et de l'indépendance. Ces idées imprègnent le monde des jeunes, des adultes et le discours sur la vieillesse. L'homme d'aujourd'hui a totalement oublié le sens profond de la vieillesse. Dans une société ainsi, comme l'a décrit Hadjadj, le faible, l'inefficace n'ont plus leur place et même ils dérangent. Le programme cartésien, être possesseur et maître de la nature, s'est radicalisé avec une nouvelle idole, la santé. Les transhumanistes prophétisent non seulement l'élimination de la vieillesse, mais plus encore l'euthanasie de la mort. Pour eux, la vieillesse correspond à une injustice de la nature. Alors, science et technique ont pour but de s'en affranchir, ainsi que de supprimer toute forme de vulnérabilité. Or, celle-ci se manifeste de manière toute particulière au moment de la naissance et au moment de la vieillesse. J'ai oublié de vous montrer la photo de Hadjadj. Dans les années 50, un autre penseur, Romano Guardini, remarque déjà que lorsque l'on confond plénitude de vie avec jeunesse, vieillesse et enfance, deux âges marqués par la vulnérabilité, perdent toute valeur. Et voilà une citation intéressante de Guardini. Le mot de vieillesse n'exprime rien d'autre dans cette perspective qu'une limitation. La vieillesse est moins productive, moins souple, etc. Selon cette conception, le vieil homme n'est au fond qu'un jeune homme diminué. Et tout cela en rapport avec la confiance accordée à l'art médical, capable de prolonger la vie, aux remèdes d'effets soi-disant magiques, sans oublier les mensonges de la mode et du maquillage. Tout ceci n'est qu'apparence et tricherie. Au lieu de vieillir, on veut revenir en arrière. Et l'auteur ajoute, moins on regarde la vieillesse, moins on l'admet, moins on connaît la véritable enfance. Alors, dans un deuxième temps, essayons de retrouver la richesse du parcours de la vie humaine. Et pour cela, je vais suivre un livre de Guardini qui s'appelle « Les âges de la vie » et dans lequel il montre un aspect très positif des crises qui font partie de la vie. Aujourd'hui, où la confusion des âges règne, là, et voilà une citation de Guardini, la phénoménologie du cours de la vie, proposée par Guardini, permet de poser un regard positif sur chacune des étapes de la vie humaine, d'en découvrir la beauté, les enjeux, les risques aussi. Et il permet de réussir les crises qui se présentent, car l'auteur décrit avec justesse le oui à la vie à donner à chaque étape. Et Guardini distingue 6 âges. Et chaque âge est caractérisé par une façon de sentir, de voir, de se comporter en face du monde. Et cette façon est si marquée qu'au lieu de passer simplement d'une phase à l'autre, la personne doit à chaque fois surmonter une crise. La période qui suit la conception s'achève par la crise qu'est la naissance. La période de l'enfance, par la crise de l'adolescence. La jeunesse se conclut par la crise de l'expérience. La majorité se conclut par la crise de la limite. La maturité se conclut par la crise du détachement. Et enfin, l'âge de la sagesse, de la vieillesse, s'accomplit dans la crise qu'est la mort. Autrement dit, la trajectoire d'une vie n'est pas lisse. Elle est marquée par des seuils nommés crises. Et au passage, dans la vie spirituelle, il en est bien ainsi. On passe d'une demeure à l'autre par des moments qui s'appellent des nuits, des moments à traverser pour entrer dans une nouvelle étape. J'aimerais parler de la beauté d'une crise. Qu'est-ce que cela signifie ? La crise ne doit pas être considérée négativement, elle est plutôt un seuil déterminant pour la liberté. Par exemple, un temps de crise comme celui de la vieillesse implique un processus de discernement et de prise de décision. Crisis en grec signifie décision, jugement, car il s'agit de s'ajuster à une situation nouvelle. Il faut se détacher de ce qui y a précédé. Ce passage, qui peut être lent, rapide, violent, progressif, n'est pas destiné à durer, mais il s'agit de le passer pour atteindre un nouvel état. Ce passage, la personne peut le réussir, mais elle peut aussi échouer. En ce cas, en cas d'échec, qu'est-ce que ça signifie? La phase qu'il vient de vivre se prolonge. C'est l'éternel adolescent, par exemple. En abrégeant la phase suivante. Ou au contraire, il abrège et comprime indûment une phase qu'il est en train de vivre au profit de celle qui s'annonce. Donc, au lieu de vivre tranquillement l'enfance, eh bien, on en fait un petit adulte. Voilà. Il y a une précipitation ou un ralentissement d'un âge. Voilà quelques apports précieux de ce regard positif sur la crise. La croissance intérieure de la personne est intimement liée aux changements physiques et physiologiques qui remettent en cause non seulement un équilibre personnel, mais aussi la relation de chaque personne avec l'entourage. Ces deux niveaux, disons intérieurs et corporels, sont à réajuster à chaque âge. Pensons aux bouleversements que sont la puberté, la ménopause, la perte de l'autonomie, la maladie. Chacune marque une étape de non-retour. Ce ne sera jamais plus comme avant. Il y a un deuil à vivre pour continuer à marcher. Le temps qui passe, ou autrement dit le nombre croissant des années, recèle une profondeur proprement humaine. C'est à tout instant que la liberté de la personne qui avance sur le chemin du temps est nouvellement sollicitée. Deux attitudes sont possibles. Ou bien la volonté s'arc-boute sur ce qui échappe, elle veut conserver, ou bien elle dit oui à ce que lui offre la réalité de son âge présent. À chaque étape de la croissance, il appartient à la personne de saisir cette opportunité par la mèche. Ces réflexions sur les âges de la vie proposent un regard précieux et revigorant. À chaque âge et à chaque crise qui le conclut, émerge la possibilité d'une sortie par le haut, c'est-à-dire par un acte de liberté, de responsabilité, un choix, un oui à la vie, qui permet à la personne d'accéder à l'étape suivante. Un autre point sur lequel Guardini insiste, il est bon et apaisant d'approfondir le sens de la vie à travers la valeur du chemin. Chaque étape est porteuse d'un défi et d'une promesse pour que l'homme devienne toujours un peu plus lui-même. Car c'est bien un homme en qui se succèdent tous ses âges. C'est de sa vie qu'il s'agit. Et ce continu ne peut être accéléré ou stoppé sans dommage. Chaque phase est une plénitude de la vie avec ses caractéristiques uniques. L'enfant n'est pas moins homme que la personne adulte, et pareil pour la personne âgée. La croissance, le chemin d'un âge à un autre est une belle chose à vivre d'abord et aussi à contempler. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, vous avez le texte dans le petit livret, à la page 6, invite à voir dans les crises qui surviennent dans l'histoire d'un couple comme l'invitation à un nouveau oui. Donc c'est foncièrement positif. Pour approfondir le côté positif d'une crise, je vais prendre deux exemples de seuils à passer, la crise de la limite et celle du détachement. Vous vous rappelez les six âges de la vie. Un petit mot sur le jeûne. Le jeune a déjà pris conscience de la limite de ses idéaux et de ses forces qu'il pensait illimitées. Pour devenir majeur, ayant fait l'expérience de la réalité et de ses propres défaillances, il a fait un premier détachement. Ce sont ses beaux idéaux qui souvent le poussaient à juger trop vite. Il découvre en passant à l'âge de la majorité, qui n'est pas les 18 ans, mais un âge, disons, vraiment humain, il découvre avec la patience la valeur de la durée. La crise de la limite, donc, qui est entre la majorité et la maturité, marque un seuil et manifeste la personne aux prises avec une expérience nouvelle en lien avec le temps. Et pour cela, je vous invite... Ah ben non, il n'y a pas le texte. Vous allez m'écouter. Je vais lire une citation de Guardini. Juste quelques phrases. Et vous allez voir, c'est très proche de la description d'un burn-out. Alors arrive la crise. L'homme sent de plus en plus nettement les limites de ses forces. L'expérience lui apprend qu'il peut y avoir excès de travail, de lutte, de responsabilité. Le travail s'accumule, les sollicitations se multiplient. Chacune d'elles en appelle une nouvelle, on n'en voit pas la fin. Et le sentiment intérieur de la personne, c'est de se sentir contraint par mille et une limites. Et une des tentations, c'est de trouver un état d'esprit désenchanté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire devant cet état où on est submergé par mille et une choses? Face à cette expérience douloureuse de l'existence, mais normale, la personne peut laisser la déception envahir son cœur ou commettre ce que Guardini appelle ces folies caractéristiques de la période de la vie. Elle commence par exemple à jouer ou à spéculer, à s'évader de la famille, à se lancer dans des entreprises hasardeuses ou même dans l'action politique. Tout cela dans le seul but de sortir de la monotonie et d'oublier les limites. Mais cette crise, elle est une nouvelle invitation lancée à la liberté humaine. Il s'agit alors de donner un oui, dicté non plus par l'enthousiasme de la jeunesse, de la nouveauté, mais un oui dicté par le sérieux et la fidélité. On continue par fidélité aux promesses données. On pourrait dire que c'est l'heure du courage résolu. On a commencé une œuvre, eh bien, on la maintient, on continue. Et c'est cela qui caractérise l'âge de la maturité. Quelqu'un de majeur n'a plus l'illusion des grandes réussites, des brillantes victoires, mais elle est capable d'accomplir une œuvre de valeur et durable. Voilà, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On est fidèle à ce qui a été commencé. Cet âge de la maturité, elle va être aussi marquée par un seuil à passer et Guardini l'appelle la crise du détachement. Mais vous voyez en fait que d'un âge à l'autre, à chaque fois, ça a été un détachement. Le détachement par rapport aux beaux idéaux de l'adolescence, le détachement eh bien, de l'illusion qu'on avait des ressources infinies. Voilà. Donc il y a toujours un détachement à faire, mais la maturité, plus spécialement, se passe avec cet acte de détachement. Cette crise est liée au fait que l'homme vieillit et qu'il prend de plus en plus conscience de sa fin. Confronté à ce temps qui ne cesse de filer entre ses doigts, la personne peut adopter plusieurs attitudes. Cela dépend de la mesure dans laquelle elle accepte la fin de sa vie, la fin de son existence temporelle. Dans le cas négatif, si la personne résiste à cette crise du détachement, on voit apparaître le vieil homme ou la vieille fille, au sens péjoratif du mot, c'est-à-dire celui qui ne veut pas vieillir. La personne s'accroche à ce qui lui reste avec amertume, en faisant peut-être semblant d'être encore jeune. L'affirmation de soi peut tourner à l'obstination tyrannique, où la personne se pense toujours importante et veut garder sa place. La réussite de la crise ici, qu'est-elle? La vieillesse et la fin sont acceptées sans rancœur ni amertume. Et Guardini souligne une qualité, sans jalousie pour ce qui est jeune, sans joie mauvaise pour la nouveauté qui échoue. Donc, une attitude de bienveillance sur la génération qui suit. Quand ce oui a été donné, c'est là qu'apparaît un ensemble de qualités très élevées et très importantes pour la totalité de la vie. Le discernement, le courage, le calme, la volonté d'assurer la pérennité de ce qui a été vécu, la pérennité de l'œuvre réalisée. Alors commence l'âge de la sagesse. Voilà ce qu'est un sage, celui qui est passé par cette crise du détachement. Et depuis le début de cette matinée, nous avons beaucoup parlé des médias, de la nouveauté, de l'accélération. Il m'a semblé bon de faire un peu un zoom sur la vieillesse, puisque c'est un âge qui est évacué en général des soucis et de la pensée de notre société de consommation. Découvrir ce que peut être la vieillesse est une chose importante, parce que nous sommes tous destinés à vieillir. Mais aussi, cela est d'autant plus important que la durée de la vieillesse tend à se prolonger autant, voire plus, que celle de la jeunesse. Grâce à l'avancée de la médecine, le vieillissement est un aspect majeur de notre univers actuel. À ce stade de la vieillesse, la menace de la mort se fait plus proche. Le temps donné pour exercer notre liberté n'est pas fini, il y a encore des choses à vivre. Mais la personne réalise plus lucidement que ce temps n'est pas non plus infini. Qu'est-ce que la vieillesse? On peut l'envisager sur trois niveaux de réflexion. Tout d'abord, au niveau biologique, la vieillesse révèle au grand jour le caractère intrinsèquement temporel de l'existence. Et les effets de la vieillesse se font sentir sur le corps et l'esprit de l'homme. Prendre conscience que le temps ne cesse de passer, c'est reconnaître qu'il échappe à tout contrôle, le temps supérieur à l'espace. C'est aussi prendre conscience que l'homme ne saurait ni en faire l'acquisition, ni le plier à sa volonté. Autrement dit, la vieillesse manifeste plus nettement la finitude humaine, puisque la fin approche. Cela peut être accru quand la maladie s'ajoute au poids des années et qu'il faut vivre avec cet acolyte non choisi au quotidien. C'est aussi une épreuve. Donc ça, c'était le niveau biologique qui nous montre en fait une fragilité que nous avons tous en nous, c'est que le temps, nous en sommes pas maîtres et que il a une influence énorme sur chacun de nous. Au niveau social, le vieillard n'exerce plus de profession ni de responsabilité. Il est mis en retrait socialement et souvent, il fait l'expérience de se sentir inutile. Cependant, cet appauvrissement des possibilités de la personne âgée a un aspect très positif. La fin de la vie est encore vie. Des valeurs s'y réalisent qui ne peuvent se réaliser que là. Alors, quelles sont ces valeurs? Et là, c'est plus le niveau intérieur de la personne âgée. En effet, ce qui la caractérise, c'est la richesse de son expérience dont peuvent profiter les autres. Le long chemin parcouru lui a permis d'accumuler de l'expérience, de dépasser la quête du contingent, du particulier. Tout cela lui donne solidité et puissance de discernement. Le temps est passé, avec des moments heureux, avec des crises, avec des échecs, avec des joies. Le vieillard sait que tout n'est pas parfait, qu'il y a des échecs et aussi des surprises. Il a expérimenté la nécessité du pardon. Et oui, que faire avec tout ce qu'on n'a pas pu faire? C'est facile de se laisser envahir par le remords. La seule façon de passer, eh bien, c'est de se pardonner d'abord à soi-même, d'avoir raté, d'avoir fait des échecs. Et ces différentes expériences créent aussi une bienveillance. On comprend que les autres puissent aussi tomber, se tromper, rencontrer des difficultés. Un autre aspect intérieur de la personne âgée, c'est qu'elle est témoin de la continuité des générations. Elle peut parler de la guerre, elle peut parler de l'ancien temps, et aussi elle est porteuse d'espérance. Elle a traversé mille et une épreuves, difficultés. Et puis aussi, c'est la joie des grands-parents de voir les petits-enfants. La vie continue et la personne âgée s'en réjouit. La joie d'une grand-mère devant ses arrière-petits-enfants, c'est quelque chose de magnifique. À mesure que la personne surmonte ses obstacles intérieurs, elle devient en quelque sorte transparente au sens profond des choses. Les performances et la lutte perdent de leur importance, puisqu'on ne peut plus faire comme avant. La personne n'est plus active, elle rayonne. Et par rapport à la continuité des générations dont est témoin la personne âgée, le pape, dans Amoris Laetitia, en parle d'une façon très belle. Vous verrez le passage aux pages 6 et 7. Les histoires que racontent les grands-parents à leurs petits-enfants, c'est quelque chose de très bon pour chaque génération. Et puis, ce sentiment de la fragilité qu'expérimente une personne âgée, quelque chose de très positif en jaillit. C'est la conscience de plus en plus claire de ce qui ne passe pas, de quelque chose d'éternel. Et je vais y revenir tout à l'heure, enfin dans un instant. Une autre valeur offerte par la personne âgée, c'est sa façon d'habiter l'instant. Ce qui s'exprime tout simplement dans sa manière de se réjouir très intensément d'un rayon de soleil par la fenêtre ou du passage d'un oiseau. Ça suffit pour rendre heureuse une personne âgée. Mais même si la personne ne se souvient plus de ce qui est arrivé il y a 5 minutes, elle vit le présent, compris, accueilli comme un don. Et cette attitude est toute proche de celle de la contemplation. Nous aussi, nous sommes faits pour cela, accueillir le présent comme un don. François Cheng, avec qui nous avons commencé cette partie, dans une belle méditation sur l'âme, confie qu'avec l'âge et même le grand âge, on découvre que nous avons une âme. Et d'ailleurs, n'avez-vous jamais souri quand un vieux ou une personne âgée vous a dit qu'il pourrait très bien reprendre du service ou vous aider alors qu'elle ne peut même pas se lever? Vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi? Pourquoi il pense qu'il peut encore faire? Tout simplement parce qu'il se sent jeune de fond. Le corps, en effet, est vieux, mais l'âme, elle est toujours jeune. Elle ne vieillit jamais. L'âme a été créée pour l'éternité. Notre corps mortel sur lequel le temps laisse sa marque indélébile et croissante est animé d'une âme immortelle. Cela n'apparaît-il pas dans ces beaux visages de personnes âgées? Quand d'un visage plein de rides jaillit un merveilleux sourire. Le travail, les soucis, les responsabilités, les maladies ont buriné, ont labouré la peau, le visage, mais l'âme, elle, sans cesse se renouvelle. Et ça rayonne dans le visage d'une personne âgée. Un petit intermède artistique. C'est une œuvre de Goya, de la fin de sa vie. Alors j'ai mis la citation, donc il est arrivé en France à cause des événements en Espagne, il est arrivé à Bordeaux en 1824 et l'ami qui l'accueille le décrit ainsi. Sourd, vieux, maladroit et faible, sans savoir une parole de français, mais si content et si désireux, excusez-moi de la faute, de voir le monde. Et c'est tellement vrai que À peine 3 jours après son arrivée à Bordeaux, Goya prend le train et va à Paris, où il passe plusieurs mois à visiter tous les musées parisiens. Et comme légende de cette œuvre, il a marqué « J'apprends toujours ». Quelle jeunesse d'esprit ! Pour continuer sur cette réflexion à propos de la croissance, de la beauté, de la trajectoire de l'existence humaine, j'aimerais me tourner vers son début, la naissance. Tout à l'heure, nous avons vu la vanité des ambassadeurs. Rappelle-toi que tu vas mourir, mais peut-être il est aussi très bon de se rappeler que nous sommes nés. Et c'est, donc voilà, une cinquième étape, la naissance. C'est une philosophe allemande, Anna Arendt, qui m'a permis de penser cette partie. L'événement de la naissance. Alors, c'est bizarre, mais il manque une phrase. Alors oui, la naissance ne se trouve que rarement au centre de la réflexion des philosophes. Pratiquement pas. Ou si on parle de la naissance, c'est pour rappeler que lorsqu'un enfant naît, il naît pour mourir. Ou quand un enfant naît, on peut penser qu'il dit à la génération qu'il a engendrée, oh, vous êtes du passé. Mais réfléchir sur la naissance est révélateur d'un fait capital et très positif, très enrichissant. Ma venue au monde dépend de deux autres vies. Je ne me pose pas moi-même, j'ai été posée par d'autres. Naître, cela signifie ne pas être soi-même sa propre origine. C'est entrer dans un monde plus vieux que soi. Être précédé d'autres êtres. C'est prendre le train en marche. Il existe avant moi. Dès que je considère ma naissance, je dois reconnaître d'une part l'antériorité d'autrui sur moi, et d'autre part, la pluralité humaine, puisque ma naissance dépend de deux autres vies, et même au-delà, de toute une société, de tout un ensemble de générations. C'est l'importance des arbres généalogiques. On vient de quelque part. Et tout enfant, qu'il soit né naturellement, mais aujourd'hui, l'adverbe « naturellement » ne veut plus dire grand-chose, car toute naissance dans nos pays développés et souvent médicalisés ou accompagnés de la médecine. Donc tout enfant, qu'il soit né naturellement ou grâce à des technologies, à des biotechnologies, provient au-delà de ses deux parents de la pluralité humaine dans laquelle, en naissant, il s'insère. L'unicité d'une personne suppose non seulement la dualité, mais la pluralité. Un enfant qui naît vient de bien plus loin que ses parents, qui ne sont jamais les seuls auteurs de ses jours. La mort est une menace que l'avenir contient d'une manière nécessaire, alors que la naissance est un fait contingent du passé. On ne dit pas « je suis en train de naître », mais « je suis né en telle année ». Ma naissance, c'est quelque chose qui est arrivé. Cela aurait pu aussi bien ne pas arriver, mais une fois que cela s'est passé, je ne puis faire en sorte que cela n'ait pas eu lieu. Parce que je suis née, je suis en vie et je vais mourir. Il m'importe d'apprendre à mourir, d'apprivoiser la mort et donc d'y penser. Alors que je puis très bien me dispenser de réfléchir sur ma naissance. C'est dommage. Apprendre à vivre peut apparaître comme une nécessité, parce que précisément étant nés, nous devons mourir. Alors, nous nous dispensons facilement de penser la naissance. Et pourtant, se passer d'une telle réflexion, n'est-ce pas se condamner à manquer une dimension fondamentale de la condition humaine? Quand on regarde la trajectoire d'une vie, ce qui est naturel, c'est l'usure des choses. Or, la venue au monde d'êtres nouveaux interrompt le processus d'usure. Elle est éminemment porteuse d'espérance. Une remarque très simple. L'enfant qui naît, on le dit nouveau-né. Que signifie nouveau ? Le nouveau-né est un être qui n'a jamais été vu. Il apparaît pour la première fois dans le monde et de ce fait même, il renouvelle le monde. Comme il est autre, unique, irremplaçable, il ne peut pas être la reproduction de quelque chose de connu. L'enfant seul peut résister à la conception cyclique du temps, c'est toujours pareil. Chaque enfant introduit du nouveau dans le monde, il commence quelque chose qui fait irruption dans la monotonie vouée au cyclisme temporel. Le nouveau-né, certes, s'insère parmi les anciens. Lui-même précède ceux qui viendront après lui. En lui se révèle la pluralité de l'humanité, constituée d'ascendants, de contemporains, de descendants. Le nouveau-né est un inconnu qui a la capacité de mettre en œuvre des initiatives nouvelles. C'est pourquoi il sauve le monde de la ruine. Chaque homme est lui-même un commencement. Il a, du fait de sa naissance, la faculté d'agir. Et cette faculté est la liberté humaine. La liberté provient de la natalité, laquelle peut être comprise comme réellement miraculeuse. Arendt oppose à l'imprévisibilité et l'irréversibilité du temps et aussi des actions humaines, le double remède de la promesse, c'est vraiment ce qu'est un enfant, et du pardon. La promesse remédie à l'inévitable incertitude de l'avenir en y déterminant des îlots de sécurité. Quelque chose est promis, quelque chose est en avant. Même si je ne maîtrise pas, quelque chose m'attend, j'espère quelque chose. Le pardon, quant à lui, libère à neuf la capacité d'agir et permet de tourner la page de l'histoire, c'est-à-dire d'en écrire une page nouvelle, rouvrant à l'action tout le champ du possible. On peut penser, par exemple, à la réconciliation franco-allemande. Quelque chose de nouveau est possible parce qu'on est passé par cette étape du pardon. Ces deux attitudes, le pardon, nous l'avons vu en particulier à propos de la vieillesse, mais c'est valable pour tous les âges, et puis l'espérance, sont la condition de la liberté. Elles permettent le plein déploiement de l'action. Elles révèlent l'une et l'autre, elles relèvent l'une et l'autre d'une confiance reçue et donnée. Ce sera le thème de la quatrième journée sur l'anthropologie, la liberté. Publicité. À Adjage, à qui on posait la question suivante. La crise de la natalité serait donc le signe d'un manque d'espérance ? Il répond. On a perdu conscience que l'enfant n'est pas un projet casé dans son plan de vie quand toutes les conditions sont réunies. L'enfant est un événement. Je me souviens du moment où j'ai vu le visage de ma fille pour la première fois. Ce fut l'inimaginable et l'inanticipable. L'enfant renouvelle notre vision du monde. Voilà le témoignage d'un philosophe qui a fait l'expérience de la paternité. Ainsi, il est bon de comprendre la vie tout entière à la lumière de la naissance et même chacune de nos actions. À partir de l'événement qu'est la naissance, il est possible d'envisager tout événement avec la même attitude d'accueil du nouveau, sans volonté de mainmise, de maîtrise. Je n'ai pas prise sur ce qui advient, mais je vais devoir prendre une décision devant cette surprise. Vous pouvez faire le lien avec le kairos, l'inattendu. Et c'est pourquoi, en dernière étape, un petit écho, une réflexion sur ce qu'est l'événement avec une autre femme. Nous n'avons pas fait exprès. Le Père Gilles a parlé de Saint-Augustin, de Merleau-Ponty, de Plotin. Et moi, j'ai que des femmes. Non, il y a Adjage quand même. Ce n'est qu'après coup que nous avons constaté. Là. Oui. Et les gardiniers aussi, bien sûr. Alors, quelques mots sur l'événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? On pourrait dire que c'est le versant complémentaire du temps ordinaire, de la routine, où il ne se passe rien ou pas grand-chose. Comme toute naissance, l'événement est surgissement inattendu de quelque chose de nouveau. Et Marguerite Léna décrit l'événement avec trois caractéristiques. Alors, j'ai tellement aimé cette présentation de l'événement chez Marguerite Léna que vous avez tout le texte, de la page 7 à la page 14. On n'aura pas le temps de tout lire, mais il me semblait intéressant que vous puissiez y revenir et bien goûter cette vision de l'événement qui est vraiment une occasion de notre liberté, qui est l'occasion d'un oui à quelque chose qui se présente, qu'on ne maîtrise pas. Alors Marguerite Léna décrit l'événement avec trois caractéristiques. D'abord, et c'est le paragraphe qui s'appelle « Une surprise de la conscience », c'est son imprévisibilité. Je ne m'y attendais pas. Quand je décide quelque chose, je m'appuie sur mon expérience, quelque chose que j'ai acquis. Je peux prévoir, je peux planifier. Mais quand l'inattendu intervient, je suis renvoyée à mes limites. Quelquefois, je perds mes capacités, je perds mes moyens. On aime bien la surprise des scoops, ou de l'événement un peu sensationnel, mais moins celle de l'événement qui contrecarre nos projets. Alors, à la page 8, le deuxième paragraphe qui commence par cette imprévisibilité, elle va mieux dire ce que je viens juste de dire d'une façon synthétique. Cette imprévisibilité est une épreuve pour la volonté. Vouloir, c'est poser des fins et mettre en œuvre les moyens qui permettront de les atteindre. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l'expérience acquise, sur la stabilité des lois du monde, sur notre propre capacité de discernement du possible et de l'impossible. Mais quand il arrive quelque chose, nous sommes brusquement renvoyés à la limite de chacun de ses pouvoirs. L'expérience ne se répète jamais à l'identique. Les lois ne cernent qu'approximativement la singularité des situations présentes. Les frontières du possible et de l'impossible s'avèrent bien souvent brouillées. Bref, on ne saurait tout prévoir. Et dans les marges de cette incertitude se glisse précisément l'événement en sa pure facticité. Voilà, quelque chose arrive, c'est, je n'avais pas prévu. Surgissant à l'improviste, il polarise toute l'attention. La conscience y est déportée hors d'elle-même, vers le monde qui impose brusquement sa présence. Ou au contraire, la voici confrontée à elle-même d'une manière inédite qui déplace ses assises les plus fermes. On perd ses moyens. Il suffit parfois de la voix d'un enfant dans le jardin voisin, et c'est la référence à saint Augustin, tolle, légué. Prend et lit, pour que l'imprévu fasse irruption et change le cours d'une vie en un instant. Voilà pour le caractère imprévisible de l'événement. Une deuxième caractéristique, et c'est le paragraphe qui est à la page 10, que Marguerite Léna a intitulé « L'événement est un appel ». c'est l'altérité de l'événement. En effet, je ne suis pas l'auteur de l'événement. Il procède de l'initiative d'autrui, qu'il soit humain ou que ce soit un arbre qui tombe. Il prolonge et actualise le mystère de ma naissance. Voulu par d'autres que moi, je dois apporter ma réponse à quelque chose que je reçois, que je n'ai pas décidé. Alors, petite citation. On peut continuer avec saint Augustin à la page 11, le dernier paragraphe. Car l'événement n'en est vraiment un que dans la mesure où il ne se donne pas simplement en spectacle et où notre passivité devant lui se transforme en réceptivité. Ce qui fait événement pour un homme est ce qui réellement l'affecte, c'est-à-dire le transforme dans l'exercice même de sa liberté et lui devient par là même intérieur. Loin d'être simplement subi, il est alors le socle à partir duquel se détermine désormais l'existence. Une jambe mutilée dans une bataille est un événement passivement subi. La longue convalescence imposée à sa suite peut changer le fait d'arme en fait d'âme et bouleverser, avec la vie d'Ignace de Loyola, celle de milliers d'hommes après lui. Tolé légué, cette parole reçue était à peine un événement du monde. Dans la vie d'Augustin, elle est devenue une source, un inoubliable événement de l'âme. Je m'arrête là. Donc, l'événement qui est un appel nouveau à notre liberté. Qu'allons-nous faire de cet événement? Enfin, la troisième caractéristique de l'événement, c'est qu'il est irréversible. Nous l'avons déjà entrevu avec la jambe mutilée. L'événement change brusquement la courbure du temps. Rien ne sera plus comme avant. La liberté humaine est prise entre un passé à consentir et un avenir à inventer. Et à ces trois caractéristiques de l'événement, il faut ajouter une précision, une qualité très importante. C'est que l'événement, on ne le comprend pas sur le coup, c'est qu'a posteriori, avec le recul du temps. L'événement n'est pas lisible tout de suite et il reste un fait brut et même brutal tant qu'il n'est pas inséré, accueilli dans le fil de la vie comme moment d'une trame, d'un récit de notre vie. Quand on subit un événement, il m'est arrivé un accident ou il m'est arrivé une grande nouvelle. Et il va falloir du temps pour que je puisse dire j'ai expérimenté, j'ai fait telle chose et j'ai choisi de réagir de telle façon. Voilà, le passage par le jeu, hein, c'était l'aspect de narration que le Père Gilles a tout à l'heure signalé chez Paul Ricoeur, voilà, pouvoir dire « je voilà. », intérioriser l'événement dans sa propre vie. On dit que le temps s'accélère. Ne serait-ce pas plutôt que nous ne voyons plus le sens du temps? Et donc, avec tout ce parcours sur la beauté de la croissance humaine, la beauté de chacun des âges, je pense que c'est l'occasion de retrouver le sens de ce temps qui passe, qui nous amène de la naissance jusque la mort, et chaque étape étant belle à passer. Voilà, je crois que j'ai fini.
Donc c'est le temps de la conclusion. Vous comprendrez qu'il nous faudra encore beaucoup de temps pour développer beaucoup d'aspects. Donc, on fait une conclusion en 5 points. Les 4 premiers seront plutôt courts et le 5e sera plus développé. Et qui sont plutôt des réflexions de solutions par rapport à tout ce qu'on a. Enfin, de solutions, de remèdes. Je ne sais pas si on peut parler de remèdes, mais en fait, de regard sur la manière de vivre notre temps et dans le temps. Alors, le premier point, et qui sont des ressources aussi de notre vie chrétienne, voilà, que nous pourrions développer. La première, ce qu'on a appelé, c'est face au zapping temporel, de retrouver une ampleur temporelle. Là, c'est vraiment c'est la notion de récit, et là je crois qu'on a une ressource profonde dans le christianisme, c'est que nous sommes pris dans une histoire, et par notre foi, nous embrassons non seulement l'origine de tout, mais aussi la fin. L'ensemble de la création et l'ensemble de l'humanité. Et je crois que en nous sachant et en nous insérant de plus en plus dans la grande histoire, enfin dans la grande narration de l'histoire du salut, que nous serons témoins d'une espérance. Et je crois, alors pour prolonger, vous voyez, je me dis, mais peut-être, enfin, les gens où on est un peu sans histoire, ou les difficultés avec le passé, etc., de replacer les personnes dans une histoire qui les dépasse, qui va au-delà des blessures familiales, etc. Vous voyez, mais voilà, si tu es là, c'est que tu appartiens à une grande histoire où tu as un père qui s'appelle Abraham, tu as un frère qui s'appelle Jésus. Tu as une mère qui s'appelle Marie, voilà. Et c'est, nous, on ne se rend pas compte à quel point d'être placé dans ce grand récit de l'histoire du salut nous assoit aussi dans l'existence, en fait, et nous fait vivre, et nous fait participer, nous donne une espérance dans ce monde-là. Bon. Le deuxième point, bien sûr, c'est l'importance des générations. Alors, mais... d'insister quand même sur la paternité, maternité et la filiation. Vous voyez, l'ouverture extatique au passé comme héritage, ce qu'on a vu, hein, et à l'avenir comme événement, cela s'opère principalement dans la filiation et la paternité. Pourquoi ? Parce que père ou mère, je me soucie d'un temps qui excède le mien. Je vais aller à un au-delà de mon bonheur, aussi bien que de mes planifications, en vue de mes fils ou de mes filles. Ouais, donc c'est des points à creuser, hein, mais vous voyez le sens. Troisième point, alors. Ce serait retrouver le sens de la création et en particulier de la nature et de son rythme propre. Voilà. On est des, je ne dirais pas qu'on est des déterrés, mais oui, on est des déracinés. Mais ça, ce sera le prochain point. Oui. Mais vous voyez, des semailles à la moisson, du jour à la nuit, des saisons de l'hiver à l'été, retrouver une à partir de ce rapport à la nature, de retrouver une temporalité de la croissance et de la fructification. Un devenir sans but, à une temporalité sans but, retrouver un temps orienté. Et il n'y a rien de mieux que la nature pour nous le dire. Une graine, ça devient un arbre qui donnera du fruit. Le travail manuel n'est peut-être pas simplement, ou plus simplement maintenant, un acte d'humilité, de nous rappeler à notre humilité, mais un acte qui peut nous rappeler la bonté de la temporalité de nos existences temporelles. Parce que nous assistons au devenir et à une croissance qui porte un but et qui est une promesse de fruits. Bon. Et la patience. Ouais, tout de suite. Quatrième point que nous empruntons à Hadjadj, il dit retrouver le lit et la table. Une sorte de la liturgie du quotidien. La fatigue et la faim, qui sont quand même des événements ordinaires, nous rappellent périodiquement à ces deux lieux majeurs que sont le lit et la table. Le lit, c'est le lieu de l'intimité, le lit pour l'intimité, nous pourrons mettre la prière, etc. Et puis la table, c'est le lieu de la convivialité. Je crois qu'il est important de redécouvrir la perte de temps autour de la table. Voilà. Du partage, j'aurais plein de choses à dire, mais je ne peux pas. Mais c'est important. Voilà. Et le temps de l'intimité perd du temps au lit. Alors nous, c'est pas. Mais bon, l'idée de prendre du temps. Je connais la dernière fois, ouais, du repos, mais pas simplement aussi. Enfin, ce sera peut-être du dialogue. Aussi. Je veux pas balancer, mais je connais deux sœurs qui la dernière fois ont discuté jusqu'à 3h du matin, vous voyez, pour attendre le lever de nuit. Alors après, vous les récupérez à la petite cuillère, mais c'est pas grave. Mais ça montre quelque chose d'important, vous voyez. En fait, je pense qu'il veut dire, c'est que dans le lit et la table, il y a le rapport à l'autre, la relation à l'autre, qui doit être première, quoi, en fait, conviviale et intime, où on s'aperçoit bien que l'accélération du temps, finalement, nous pourrait nous faire perdre ce sens de la relation et de l'autre. Et comment, en tant que chrétien, nous pouvons témoigner de cela, vous voyez, qu'il y a des choses plus importantes que l'efficacité du travail, que le transport, que d'arriver à l'heure, que des choses. Pas facile à mettre en place, mais important. Enfin, le cinquième point, peut-être qu'il faudra revenir au dortoir, je ne sais pas. Non, je plaisante. C'est une blague. Mais voilà, c'est à réfléchir. Cinquième point, alors que je vais développer plus, bien sûr, le temps liturgique. Je voudrais insister là-dessus. Devant les enjeux actuels face au temps, hein, et la possibilité même de construire notre rapport au temps, nous pouvons, en tant que chrétiens, nous appuyer sur le temps liturgique, qui est un temps tout à fait particulier. Il est sûrement une ressource, et plus qu'une ressource, hein, pour vivre ce rapport au temps d'une façon juste et libérante. Puisque nous sommes au seuil d'une nouvelle année liturgique, attardons-nous un peu. L'année liturgique fait mémoire d'une histoire du salut dans laquelle elle inclut le présent. Elle accomplit ce salut en le célébrant. Elle fait mémoire, vous voyez pourquoi ? Parce qu'elle fait mémoire en même temps de l'accomplissement déjà effectué et en même temps à venir de cette histoire. C'est très particulier, parce que, et du coup, ça, je peux faire un petit... Si, je peux bouger, regarde. C'est très bizarre le temps liturgique, le temps du salut, parce qu'en fait, on est là, ça c'est notre présent, on fait mémoire d'un événement qui a eu lieu dans le passé, et pas du tout. Cet événement nous ramène à un accomplissement. Je prendrai un exemple tout à l'heure. Et qui, lui, nous transforme dans notre présent. Alors, la liturgie, le temps liturgique, c'est ça. C'est au présent, nous faisons mémoire d'un événement passé qui nous ramène à un accompli. Et c'est parce qu'il y a eu cet accomplissement que ça nous bouge dans notre présent. Ça complique un peu. L'avant, je suis désolé, l'avant c'est quoi? Nous faisons mémoire d'un événement qui a eu lieu dans le passé, qui est la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus nous renvoie au retour de Jésus dans la gloire. Vous verrez que les deux premières semaines de l'avant, tous les textes sont sur la venue de Jésus. En fait, Jésus ne revient pas, Jésus vient dans la gloire. Et parce qu'il vient dans la gloire, je l'accueille dans l'aujourd'hui de ma vie. Donc, vous voyez comment se joue la mémoire nécessaire, fondamentale, mais qui engendre l'espérance. Mais l'espérance d'un accompli, vous voyez. Nous, chrétiens, c'est ça l'espérance. Oui, tout a l'air de tomber par terre, mais c'est les textes qu'on a toute cette semaine. Toute cette semaine, l'évangile, ça n'a été que catastrophe, déluge, guerre, épidémie, enfin on se demande dans quelle espèce de vie. Mais c'est vrai, c'est notre monde. Et en même temps, il est traversé. Pourquoi ? Parce que c'est déjà fini, c'est accompli, c'est sauvé. Bon. Donc le chrétien est très réaliste. C'est la mouise, mais c'est sauvé. Voilà, donc, enfin, si je peux dire ça d'une manière peu philosophique et peu. Alors. Donc vous voyez, l'année liturgique, le temps liturgique est en même temps complexe et en même temps bienfaisant. Pourquoi ? Parce qu'il célèbre un mystère d'alliance, déjà, c'est un mystère d'alliance qui est célébré, que les autres calendriers ignorent. Ce qu'elle célèbre cette année liturgique, ce temps liturgique, ce que célèbre ce temps liturgique donne sens à ce que vit l'être humain. Le temps liturgique ne se contente pas de suivre le temps qui passe ou de se laisser porter par lui, elle le structure. Nous, on ne se rend pas compte parce que nous le vivons, mais le temps liturgique, la foi, nous structure temporellement. Elle établit un rapport nouveau, enfin différent, autre, enfin comment dire, particulier du passé, du présent et du futur. Et qui le structure en donnant du sens. Alors on va voir pourquoi. Elle intègre son accomplissement dans son déroulement. Elle intègre son eschatologie dans son histoire. Pourquoi l'histoire a-t-elle un sens pour nous? Parce qu'elle est, d'une certaine manière, en Jésus-Christ, l'histoire est déjà accomplie. Et c'est un mystère d'alliance, et c'est un mystère de résurrection, de salut. En fait. Vous voyez, le temps liturgique dépasse les figures présentées au début de notre exposé. Le temps liturgique est d'une certaine façon un temps cyclique, puisqu'il est amarré au rythme quotidien, hebdomadaire et annuel. Alors le temps chrétien, le rythme chrétien, c'est le rythme de la semaine. Et très vite, on le sait, on a célébré l'Eucharistie dominicale. Les premiers chrétiens, et ce qui rythme la vie, bon, ça reprend un peu la semaine juive, c'est la semaine. Mais, vous voyez, c'est cyclique, mais il n'est pas enfermé dans une boucle qui repasse indéfiniment à l'identique. Et dans nous refaisons l'année liturgique, c'est nous refaisons les mystères de Jésus. Mais en même temps, ce n'est pas une boucle. Je vais vous expliquer. Et puis, il est linéaire, puisqu'il accompagne et nourrit la vie de l'Église dans son pèlerinage à travers l'histoire. Il a un sens, puisqu'il est orienté vers son accomplissement et la réalité déjà effective du salut. Le temps liturgique est toujours actuel, toujours renouvelé. Et c'est par le mystère qu'il célèbre continuellement qu'il garde toujours la porte ouverte sur l'éternité. Et de fait, le temps chrétien, c'est un temps qui peut être comparé à une spirale. Le rythme cyclique, les mystères de la vie de Jésus, du salut, mais en même temps, qui nous entraîne vers un définitif. Ou d'autres exemples, un autre exemple, c'est aussi la vis sans fin. Vous savez, une vis sans fin. Voilà. Donc l'axe, c'est l'éternité, le temps pascal. Ouais, et puis, ben, en même temps, ça tourne, parce que à chaque tour, on s'avance de la fin. Donc nous avons des existences en spirale. Ouais. Ni cyclique, ni tout à fait linéaire, en spirale. Alors, voyons pourquoi. L'année liturgique est un lieu de mémoire du salut, ça bien sûr. Cette mémoire du salut instaure un rapport au passé qui construit notre identité. Je pense que c'est bon. Prenons la veillée pascale. Elle nous fait retraverser l'expérience de foi d'un peuple qui reconnaît dans l'histoire le passage salvifique de son Seigneur. Là, c'est toutes les lectures que nous relisons. Comme on dit, c'est l'album de famille. Nous relisons notre histoire. Cette traversée nous fait vivre et comprendre que nous sommes héritiers de cette histoire passée. Aussi loin fut-elle, elle devient la nôtre. En suivant le cierge pascal dans la nuit, nous sommes en situation de pérégrination, comme Israël au désert, mais à la suite du Christ mort et ressuscité. Le temps, pour nous chrétiens, est le lieu, alors en image spatiale malheureusement, mais le temps est le lieu du salut. Parce que Dieu s'est incarné, parce que l'éternité est entrée dans le temps, le temps acquiert une appréciation positive de notre part, car Dieu n'a pas dédaigné de devenir temporel. » Et le temps liturgique inclut aussi la mémoire de l'eschatologie. Vous voyez, c'est fou, la liturgie, c'est un mémorial du futur. Vous voyez, nous faisons mémoire d'un accomplissement. C'est très complexe. Ah, ça commence à... Oui, c'est... Alors, en effet, la perspective, et je vous donne un exemple, la perspective historique, la perspective purement historique des événements du salut n'est pas première, mais elle est toujours subordonnée à une vision eschatologique. Par exemple, la date de naissance de Jésus de 24 décembre, elle n'est pas historique. Elle est symbolique. Donc, vous voyez, mais pourquoi ? Ce que l'on veut dire, c'est que le salut a eu lieu. C'est pourquoi, voilà, on fête Noël à une date symbolique et non pas historique. On se souvient d'un événement passé qui dit quelque chose de notre avenir, je reprends encore, hein, et cet avenir change notre présent. Voilà, j'aime pas quand on dit, vous savez, après l'anamnèse, il reviendra dans la gloire. Mais en fait, Jésus ne revient pas. Jésus vient. Depuis son ascension, il vient. Et comme il ne vient pas dans sa plénitude, bah, tous les jours, il vient dans l'Eucharistie, ou il vient dans, voilà, dans nos actes de foi, etc. Dieu me libérera dans le futur, et donc il me libère dans le présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je fais mémoire de la naissance de Jésus, sa venue dans notre monde. Cet événement me renvoie à un événement futur, il vient dans notre monde, et cela change mon présent. Le lieu de l'accueil du salut en Jésus, c'est aujourd'hui en moi. C'est pourquoi la liturgie se célèbre toujours aujourd'hui. La liturgie est ce temps quotidien où les mystères du salut sont rendus présents. Non pas sous mode de souvenir, mais sous mode de réalité salvifique. Le modèle du temps liturgique, c'est Luc 4, 14-21. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Je crois que pour nous, plus que le présent, c'est cet aujourd'hui qui est le maître mot de notre rapport au temps. Pourquoi ? Parce que dans la liturgie, Dieu se rend présent, il rend présent son salut. Saint Augustin disait, ton aujourd'hui, c'est l'éternité. Le temps historique demeure, nous y sommes insérés, et c'est aujourd'hui que le salut s'accomplit. En fait, le temps présent de la liturgie concilie le temps humain et l'éternité de Dieu. C'est pourquoi le temps est l'image de l'éternité. Plotin avait vu juste. Mais c'est là qu'il faut bien faire la pirouette. L'aujourd'hui, non pas du temps humain, mais une entrée du salut eschatologique accompli par Dieu dans le temps présent. L'aujourd'hui, c'est Dieu qui est là et qui me sauve, qui transforme notre vie présente. La vie éternelle a déjà commencé. Le définitif est déjà là. C'est pour ça que le chrétien est plein d'espérance. Il est en paix, malgré les épidémies, les destructions, les guerres, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être angoissé. Hein. Mais il y a quelque chose. Vous voyez, cette vie, ce temps chrétien, normalement, nous transforme profondément. Enfin, la liturgie est le lieu d'apprentissage de la gratuité. La liturgie ne vise rien d'autre que la rencontre avec Dieu, ce que manifeste bien la liturgie des heures. Elle nous donne à vivre que le temps de Dieu, le temps pour Dieu, se place hors du système comptable, minuté, rentabilisé, même lorsque nous sommes pris par des rythmes quotidiens serrés. La liturgie des heures, par exemple, nous rappelle notre appartenance à un temps qui n'est pas celui des horloges, mais qui est un porche pour l'éternité. C'est dommage, en fait, que vous n'ayez que les lodes et les vêpres, et les complis, d'ailleurs, que vous avalez rapidement, mais dans la journée, nous prêtres, on doit s'arrêter, voilà, pour nous rappeler que le temps, c'est d'abord le porche de l'éternité, milieu du jour, office des lectures, vêpres. Bon. Mais la récré, c'est le temps de la table, la convivialité. Voyez. Donc, il y a plein de liturgies. Alors, ce temps, hein, nous y sommes déjà entrés grâce à la suture que réalise le mystère pascal du Christ entre le temps humain et l'éternité de Dieu. Ben, j'ai fini. Voilà. Et on va terminer, puisque nous entrons dans l'Avent, avec cette phrase de Marie Pilla. Peut-être que quelques-uns la connaissent parmi vous. Dans un très bel enseignement, l'Avent, en effet, c'est l'histoire vraie, donc la temporalité, l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à sa disparition, cette grande narration dans laquelle nous sommes. Il faut se placer dans ce grand cadre d'attente, l'histoire du peuple de Dieu en marche, qui débouchera dans les grandes réalités de la vie trinitaire. Ouais. 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 Ouais.